France Culture.
Réplique, vivre avec Proust, avec Catherine Cusset et Anne Simon. Dans Le temps retrouvé, le dernier tome de la recherche, Marcel Proust écrit « L'écrivain ne dit que par une habitude prise dans le langage insincère des préfaces et des dédicaces, mon lecteur. En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût peut-être pas su lire en lui-même. » À la romancière Catherine Cusset, qui publie « Ma vie avec Marcel Proust », et à la grande spécialiste de cet auteur immense qui est Anne Simon, je voudrais demander si cette définition correspond à leur pratique, si le lire, pour elle, c'est être lu par lui. Catherine Cusset.
Alors la réponse est oui. Si j'ai écrit « Ma vie avec Marcel Proust », c'est justement parce que je me suis retrouvée dans Proust absolument sans arrêt, à différents âges de la vie et à tous les niveaux. Quand je l'ai lu à 15 ans et que je lis la scène du baiser où il attend le baiser de sa mère, je retrouve non seulement ma propre attente du baiser de ma mère, mais aussi tout ce triangle entre le père, la mère et l'enfant. Je reconnais les rapports bien complexes que j'entretenais avec ma mère, dont j'étais si proche, avec mon père, dont j'étais si lointaine. Et donc je me vois chez Proust, et c'est tellement subtil la façon dont il décrit les sentiments et l'âme humaine. Et je suis entièrement d'accord avec la conception de la littérature de Proust. J'ai l'impression d'avoir grandi toujours avec cette distinction à moi entre le moi social et le moi profond. Et pour moi, Proust, évidemment, nous place d'emblée du côté du moi profond. Et le lire, c'est un peu échapper à la superficialité de la vie courante, à tout ce qui se dilue, à tout ce temps qui passe, qui fait qu'on devient un autre à chaque instant. Et c'est entrer dans une profondeur qui est celle du moi profond, qui est celle du lien à soi. C'est arriver à se comprendre. Et pour moi, c'est exister. Lire Proust, c'est exister, en fait. C'est me retrouver à chaque phrase. Vous savez, c'est un petit peu, je dirais, comme faire une psychanalyse, mais en mieux. Quand vous faites une psychanalyse, vous sortez de la vie courante et vous parlez de ce qui est essentiel dans votre vie. Et tout à coup, vous voyez le lien entre les choses essentielles de votre vie. Et lire Proust, c'est ça, en fait. C'est aller à l'essentiel.
Alors, Roland Barthes a donné une conférence devenue célèbre. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Et dans cette conférence, il dit, elle aurait pu porter pour titre « Proust et moi ». Ce qui ne veut pas dire que je me compare à lui, bien sûr. Ce serait très présomptueux, mais que je m'identifie à lui. Et à un autre moment, Barthes dit « Lire Proust a tout d'une consultation biblique, la rencontre d'une actualité et d'une sagesse ». Alors, Anne Simon, êtes-vous d'accord avec Catherine Cusset et avec Roland Barthes ?
Je suis bien sûr d'accord déjà avec Catherine, dans la mesure où Proust, elle le montre très bien au début de son livre. Il y a des âges de la vie. Quand on lit Proust, il y a des âges de la lecture. Et pour ma part, j'ai infusé, un peu comme la tisane de Proust, cette lecture, elle a infusé en moi au fil des décennies. Et chaque fois que je dois relire Proust pour une émission, pour une conférence, etc., je redécouvre ou je découvre des aspects de lui que je ne connaissais pas. Et ceux que je relis et que je reconnais, ils m'émeuvent encore et toujours davantage. Et je crois que moi, ce qui me fascine chez Proust, c'est l'affect. C'est le règne de la compassion, de la cruauté, de la colère, de la fascination des rencontres. Voilà. Et sur le moi social et le moi idéal, par contre, moi, c'est plutôt que mon moi profond a tendance à émerger en permanence au cœur de mes relations sociales. Et donc cette dissociation, je la fais beaucoup moins et je suis pas sûre d'ailleurs que Proust la fasse totalement.
Mais c'est ce qu'il dit dans le Contre Sainte-Beuve. Oui. Il y a le moins social et le moins profond.
Il le dit dans le Contre Sainte-Beuve, mais dans la recherche, il passe son temps à montrer, par exemple avec le personnage de Charlus, que le vrai moi, entre guillemets, qui est refoulé, passe son temps à se manifester. Et vous avez parlé de psychanalyse, Catherine. Il passe son temps à se manifester.
Mais alors, quand Catherine je parle de moi profond, pour moi, c'est vraiment le moi de l'écriture. Et vous avez raison, Anne. Moi, je l'ai lu 3 fois à la recherche. Donc, la première fois, je l'ai lu comme un écrivain de l'amour. J'avais 15 ans et j'aimais, on va en parler après, à la façon de Proust. La deuxième fois, je me suis aperçue que c'était un écrivain de la société, qui parlait de nous dans la société. Et la troisième fois, quand je l'ai lu à la cinquantaine, un écrivain de l'écriture. Et sa conception de l'écriture comme la quête du livre intérieur que chacun porte en soi. Je la partage entièrement et il me remonte le moral. Il dit qu'on n'a pas besoin d'inventer, qu'il faut partir à la recherche, à la quête de ce livre qu'on porte en soi. Il dit aussi que l'écrivain n'est pas libre d'écrire ce qu'il veut. Il doit partir en quête et traduire cette impression, ce qui s'est imprimé en lui. C'est rare aujourd'hui de croire d'avoir encore cette conception de l'écriture, de ne pas chercher de sujets dans l'air du temps, de ne pas chercher à écrire des choses qui sont importantes aujourd'hui pour le monde, mais de partir à la recherche de ce que Proust appelle finalement le vrai, hein, qui est le vrai pour soi, qui est un vrai totalement singulier. Et si ce vrai, on arrive à le mettre en mots jusqu'au bout, on atteint quelque chose d'universel. C'est vraiment uniquement rechercher son point de vue singulier sur le monde. Il n'est pas facile à trouver.
Point de vue singulier sur le monde, mais d'un autre côté, et vous le citez, Proust dit « Je cherchais des lois générales et on m'appelait fouilleur de détails. » Et ces lois générales, il les cherche d'abord, vous l'avez dit Catherine Cusset, dans l'amour. Alors arrêtons-nous à la conception proustienne de l'amour. C'est là, personnellement, d'ailleurs, que j'ai du mal à lire en moi-même quand je lis, si vous voulez, les développements de Proust sur l'amour. Mais quelle est sa conception de l'amour telle qu'il la développe dans toutes les histoires qu'il raconte? Le narrateur est Gilberte, le narrateur est Albertine, Swann et Odette, bien sûr, mais également Saint-Loup et Rachel. C'est quoi l'amour selon Proust, Anne Simon?
L'amour selon Proust, c'est d'abord une réalité. On croit toujours que on se trompe dans l'amour et que Proust dit qu'on se trompe dans l'amour, mais il y a cette impression justement quasiment typographique de l'affect qui s'effectue et ça se passe la plupart du temps par un premier regard, par une rencontre. Et comme ça se passe aussi dans la vie. Et jeter le regard sur l'autre, c'est la flèche des roses qui vient toucher de façon extrêmement concrète celui ou celle qui est en face. Et donc, ce sont des conflagrations, ce que Proust appelle les conjonctions entre Charlus, par exemple, et Jupien. Et donc, il y a une possession quasiment de soi par l'autre, dans l'autre, qui s'effectue à travers l'amour. D'où, chez lui, une sorte de pathologie de l'amour, une maladie de l'amour qui est la jalousie. Et qui est assez proche d'ailleurs de l'idolâtrie, hein, ce risque de l'idolâtrie qu'on a quand on lit Proust.
Alors, je voudrais d'abord rebondir, Alain,
sur quelque chose
que vous avez dit quand vous avez cité cette phrase où on disait que j'étais un fouilleur de détails. Et je veux rebondir dessus parce que ça a rendu Proust fou quand Du côté de chez Swann a paru en 1913, donc un livre de 700 pages qui paraît, et les commentaires sont assez bons, hein, le livre est bien reçu, mais on dit « Oui, c'est un livre où il nous parle de son enfance, de ses premières amours, c'est un livre charmant, c'est un peu dommage qu'il fasse 700 pages, ce livre délicat et précieux aurait dû en faire 150, il aurait été ravissant. » Proust dit « Mais quel contresens, quel malentendu! Il ne s'agit pas du tout d'un livre charmant sur des souvenirs d'enfance, mais pas du tout. Il s'agit d'un livre sur les lois, vous venez de dire, de l'âme humaine. » Alors, pour revenir à l'amour, évidemment, alors l'amour chez Proust, c'est juste, c'est impossible. L'amour est impossible. L'amour ne serait possible que dans la possession absolue, mais alors dans ce cas-là, dans la possession absolue, on s'ennuie. Finalement, la seule chose qui va mettre fin à l'amour, eh bien, c'est l'oubli. L'amour n'est que torture. Il est la torture du silence, la torture de la jalousie. Il est juste la rencontre avec l'autre est impossible. Et je l'ai lu comme un écrivain de l'amour à 15 ans, parce que je vivais l'amour de cette façon-là à 15 ans, donc à l'adolescence. C'est-à-dire l'amour comme étant non réciproque, bon, en général platonique, mais peu importe, non réciproque et étant juste une torture, attendre une lettre pendant un mois, désirer tellement être aimé en vain. Et à 18 ans ou à 20 ans, je n'ai plus du tout partagé cette conception-là de l'amour, qui pour moi, quand même, chez Proust, à voir avec le fait qu'il était homosexuel et que tout simplement pour lui l'amour était pratiquement impossible dans la société de son époque.
Mais en tout cas, ce qu'il dit, ce qu'il répète, ce qu'il martèle, c'est que l'être aimé n'est pour rien dans l'amour qu'on lui porte.
Non, absolument. Il dit en effet, les charmes d'une personne ne sont beaucoup moins une source d'amour qu'une phrase comme « Non, je ne suis pas libre ce soir ». Et c'est tellement intelligent. Et l'amour a tout à voir avec nos propres névroses, nos névroses d'enfance, avec l'attente du baiser du soir de notre mère autrefois, et pas grand-chose à voir finalement avec l'autre. Et en même temps, même si l'autre n'a pas beaucoup de valeur, la valeur de l'amour est suprême parce que c'est celle de la souffrance. Elle nous révèle à nous-mêmes. L'amour est essentiel parce qu'il révèle à nous ce qu'il y a de plus important à nous, en nous.
Oui, mais il y a ce refus d'une idée de toute réciprocité en amour. Et Proust veut nous apporter la connaissance de l'amour, mais il ne croit pas qu'il puisse y avoir, comme le pensaient les anciens, une connaissance par l'amour. Et en effet, il y a des phrases très belles, les charmes d'une personne sont une cause moins fréquente d'amour qu'une phrase du genre de celle-ci, « Non, ce soir, je ne serai pas libre ». Mais Proust dit ceci, l'œuvre d'art est signe de bonheur parce qu'elle nous apprend que dans tout amour, le général gît à côté du particulier et passé du second au premier par une gymnastique qui fortifie contre le chagrin en faisant négliger les causes pour approfondir son essence. Proust, c'est les lois. Marc Fumaroli disait « La littérature est la jurisprudence de la vie humaine ». C'est la surveillance du général à partir du particulier, par le particulier. Avec Proust, c'est l'inverse. C'est le particulier sous l'autorité du général. Et c'est de ce point de vue-là, il est très dogmatique, il est plus moraliste que romancier. Derrière le « je », il y a toujours un « nous ». Et moi, je dois dire qu'en tant que lecteur de moi-même, ça m'étouffe. D'abord, je n'ai jamais reconnu ma propre expérience de l'amour dans ce qu'en dit Proust, et je ne pense pas toujours que la connaissance soit une désillusion. Anne Simon, pardon d'avoir été si long.
Pas du tout, je m'insurge un petit peu. Alors, tout à fait d'accord avec vous sur ces histoires de grandes lois que Proust voulait établir, grandes lois psychologiques et psychiques dont Catherine a parlé, mais aussi les grandes lois politiques et sociales sur lesquelles on pourra revenir. Il aborde la vie avec, non pas un microscope, mais un télescope, dit-il. La jalousie, j'allais dire, en matière de roman, c'est bankable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, passons sur la personnalité de Proust lui-même, mais on fait un roman avec du tragique, avec de la jalousie, avec des péripéties, avec des oublis, avec des trahisons, etc. Mais il y a plein de couples heureux dans la recherche et évidemment, du bonheur, on a beaucoup de mal à parler, ça fait moins romanesque. Mais ces couples heureux, ils sont légions et ils sont dans
les
filigrades.
C'est qui les couples heureux ?
Oui, alors, je vais vous en citer plus. Le premier, peut-être. Bon, les parents du narrateur, après tout, ça se passe bien.
Ah oui,
on a pas de...
c'est vrai.
Mais il n'en est rien raconté.
Ouais. Ah oui, donc on
mais quand même, si, il y a une tendresse, ils ne sont pas d'accord sur l'éducation de l'enfant, mais enfin, ça ne...
Et les grands-parents aussi, d'ailleurs.
Voilà,
la grand-mère et son mari qui boit, là, qu'elle essaie...
Exactement.
Ça la chagrine tellement.
Elle est tellement malheureuse qu'ils boivent du cognac alors que ça lui fait du mal. Il y a bien sûr, avant tout, sans doute, une sorte d'amour très particulier entre Jupien et Charlus. Mm-hmm. C'est une conjonction, une conflagration qui s'effectue au début de Sodome et Gomorre et qui va durer jusque dans le temps retrouvé où on va voir le baron de Charlus, devenu complètement gaga, sénile, etc., en tout cas en apparence, parce qu'il a eu une attaque d'apoplexie, comme le père d'ailleurs de Proust, et Jupien s'occupe de lui comme il le faisait d'un enfant. Donc il
oui, donc il y a un amour maternel-paternel, mais en fait, Charlus, il est amoureux du violoniste Morel, et ça se passe pas bien.
Oui, mais c'est parce que on est dans, là avec Charlus et Jupien dans des couples, on dirait fluides aujourd'hui, petit peu différents. Surtout, il y a Monsieur de Norpois et la marquise de Villeparisis qui cachent leur amour, mais qui en réalité sont des amants de toute une vie.
Et là, c'est drôle, c'est vrai.
Voilà. Il y a Mademoiselle Vinteuil et son amie. Ouais. Alors, on les voit quasiment faire l'amour dans Combray, dans le tout début de La Recherche du Temps Perdu. L'amie de Mademoiselle Vinteuil dit même qu'elle va cracher sur le portrait du père. Enfin, elles sont dans une relation extrêmement névrotique l'une avec l'autre. N'empêche que à la fin de sa vie, l'amie de Mademoiselle Vinteuil pense qu'elle a peut-être tué le père de Mademoiselle Vinteuil, le grand musicien, et elle va passer son temps à publier son œuvre. Et je pourrais vous en citer d'autres comme ça. Le couple Verdurin, tout simplement. Alors, Madame Verdurin trompe de temps en temps Monsieur Verdurin.
Oui, elle épouse pour finir
le prince de Guermantes.
Oui,
et puis l'image de ces amours heureux est un peu médiocre. Mais je voudrais revenir à la question des grandes lois. Parce que moi, ce qui me frappe quand je lis Proust, et même si, effectivement, à partir de 20 ans, je ne partage plus tellement sa conception de l'amour, mais quand même, il y a des phrases comme ça qui apparaissent, qui sont en général dans une parenthèse ou entre deux virgules. Et tout à coup, cette phrase qui apparaît est une grande loi. Et je voudrais en citer une. À un moment, il raconte comment sa grand-mère est malade et elle a une attaque. Il y a un petit danger qu'elle meure. Et il est affolé, Proust, parce que si elle meurt, eh bien, elle ne pourra pas aller au Champ de Mars retrouver son amie Gilberte. Et il y a donc entre deux virgules cette phrase « On n'aime plus personne ». Dès qu'on aime,
oui.
Et c'est la concision de cette grande loi humaine. Hein, c'est que dans l'amour et le désir, ça passe avant tout. Vous ne pensez plus à vos parents, vous ne pensez plus à vos enfants, je ne sais pas. Il n'a jamais eu d'enfant, Proust, après tout. Peut-être que l'enfant, c'est peut-être la limite à cette loi. Oui. On n'aime plus personne dès qu'on aime.
Oui, mais cette loi va plus loin. Parce qu'on n'aime pas non plus la personne qu'on aime. L'amour est un quiproquo.
C'est le désir.
L'amour est un quiproquo.
Oui,
c'est-à-dire...
bien sûr.
Et l'amour est une projection, l'amour est un fantasme. Sartre dit « l'imaginaire est pauvre ». Phrase magnifique. Chez Proust, c'est l'inverse.
Ah oui,
l'imaginaire
est dans l'imagination.
L'imaginaire riche et le réel est pauvre.
C'est ça.
Et la connaissance,
sauf dans l'art, hein,
prend toujours la forme de la désillusion. Et pour dire un mot encore, Anne Simon, vous allez me contredire, sur le dogmatisme de Proust, il y a cette anecdote relatée par Emmanuel Berle dans Sylvia.
La pantoufle.
Oui.
On ne sait pas très bien. En tout cas, Sylvia a écrit à Emmanuel Berle. Il est fou de joie, ils vont se fiancer, il va l'annoncer à Proust, l'amour partagé existe, il y a une réciprocité. Proust devient fou de rage. L'amour, ce n'est jamais l'idylle. Et en effet, il lui lance des injures comme des pantoufles par la porte du cabinet de toilette. C'est donc des injures, pas des pantoufles, mais comme des pantoufles.
Ah oui, d'accord.
Par la porte du cabinet de toilette, et c'est la rupture. Donc Proust ne supporte pas qu'il y ait la moindre exception à la règle qu'il fixe. Et en moi, il y a toujours un match entre Henry James et Marcel Proust. Mm-hmm. C'est deux auteurs qui m'occupent. Et Henry James, c'est « the special case », le cas particulier. Et donc, d'une certaine manière, c'est James qui gagne à cause du dogmatisme proustien et de ces histoires d'amour qui, malgré tout, raconte toujours la même chose. Il y a les exceptions dont vous parlez, mais les histoires, c'est toujours ça. C'était on se trompe, Saint-Loup se trompe sur Rachel, le narrateur se trompe sur Albertine, se trompe sur Gilberte, et alors quant à Swann, c'est la femme qui n'était pas son genre. Anne Simon.
Moi, je dis souvent que les couples dysfonctionnels qui sont ensemble pendant 50 ans sont des couples qui fonctionnent bien. Et peut-être que chez Odette et Swann, il y a aussi de ça, d'une certaine manière. Peut-être qu'Odette avait besoin de cette altérité immense qu'est Odette, demi-mondaine, pas toujours très intelligente, mais elle a l'intelligence des robes. Et la robe, c'est quand même un des modèles de l'écriture du livre chez Proust. Ce qu'aime Proust, ou peut-être ce qu'aime le narrateur, c'est l'esquive, c'est la fuite. Il n'aime que des êtres sournois, que ce soit Albertine, Gilberte, et même la duchesse de Guermantes.
Oui, il y a la duchesse de Guermantes aussi.
Oui.
Avec, ce sont ces trois... Mais tout ce qu'il dit sur son nom.
Ces trois amours, mais... Le narrateur, il aime trois femmes dans sa vie, c'est pas tant que ça, j'allais dire. Il a trois amours qui durent et qui lui échappent.
Oui, c'est vrai, mais on a l'impression que chez Proust, toute découverte est une déception. Alors, la grande exception, à mes yeux, il faut en dire un mot, c'est la grand-mère. parce que tout, il y a un très fort amour entre le narrateur et sa grand-mère, réciproque, et il aime pour sa bonté, il aime pour quelque chose qui est en elle. Alors, aucun érotisme là-dedans, bien sûr, mais ça donne les pages parmi les plus bouleversantes de la recherche, notamment dans Le Côté de Guermantes, tout ce qu'il dit de l'agonie de la grand-mère.
Oui, alors cet amour du narrateur et de la grand-mère, dont on sait qu'il a été inspiré par l'amour du narrateur et de sa mère, évidemment, est une des grandes, un des grands amours, une des grandes forces de la recherche. Mais en même temps, c'est à propos de la grand-mère qu'il écrit « On n'aime plus personne dès qu'on aime ». Donc il nous dit quand même que le désir sexuel, le désir physique, peut l'emporter sur cet amour purement affectif, l'amour agapé des Grecs, quoi, l'amour qui est l'agapé et pas l'éros. L'éros l'emporte chez Proust, c'est ce qu'il y a de plus important. Et pour revenir à cette notion de moralisme et de dogmatisme, je vois ce que vous voulez dire Alain, mais je ne sais pas si j'irai jusque-là. Je crois que Proust parle simplement de sa propre expérience, qui n'est pas une expérience heureuse de l'amour. Mais je ne l'appelle pas un moraliste parce que c'est toujours lui qui le met en scène, c'est toujours le narrateur, il se moque de lui-même, il n'est pas en train de moraliser.
Mais derrière le « je » Proustien, il y a toujours un « nous ». Nous croyons aimer, mais c'est pas comme ça, etc. Donc, c'est vraiment le général qui surgit du particulier.
Mais bon, je suis d'accord. Quand j'ai relu Proust à 20 ans et à la cinquantaine, c'est pas le Proust amoureux qui m'a intéressé. C'est l'autre Proust. C'est le Proust de la création. C'est le Proust qui parle de nous dans la société. C'est à ça que j'ai été plus sensible parce que ma conception de l'amour avait changé.
Oui. Proust cite dans Le Temps retrouvé une phrase absolument magnifique de La Bruyère. Mais je suis pas sûr qu'il la pense jusqu'au bout.
Oui.
Les hommes souvent veulent aimer et ne sauraient y réussir. Ils cherchent leur défaite sans pouvoir la rencontrer. Et si j'ose ainsi parler, ils sont contraints de demeurer libres. Je trouve cette phrase magnifique parce que elle nous dit quelque chose de l'amour. C'est une aliénation en effet, mais c'est une aliénation meilleure que la liberté. On est sous emprise et en quelque sorte c'est bien. Proust n'irait pas jusque-là. Donc je trouve qu'il cite La Bruyère, mais La Bruyère nous dit de l'amour ce que Proust refuse de nous dire parce qu'il ne veut pas non plus le penser. Mais si j'en reste à la grand-mère, dans Le Côté de Guermantes, il y a le récit absolument bouleversant de son agonie. Et tout le monde aime la grand-mère, la mère de Proust notamment, la mère de Marcel, pardon, le narrateur lui-même, mais aussi Françoise, la servante. Simplement, Proust ne peut pas se retenir de donner un coup de griffe, parce que c'est un auteur très, très dur, très méchant avec beaucoup de ses personnages. Et Françoise a commandé une toilette de deuil, avant la mort. Et donc, elle s'absente parce qu'elle ne voulait pas faire attendre la couturière. Et voici la phrase de Proust, assassine, vraiment assassine, et généralisatrice, dans la vie de la plupart des femmes, tout, même le plus grand chagrin, aboutit à une question d'essayage. Vraiment, oui, il faut dire un mot quand même de cette...
Ma mère serait d'accord.
Oui, mais ce côté jeu de massacre de la recherche du temps perdu. Vraiment, qu'il s'agisse de Norpois, du docteur Cottard, de Madame Verdurin, de la tante Léonie, ou du duc et de la duchesse de Guermantes. Proust, c'est l'auteur qui a la dent dure. Vous ne pensez pas, Anne-Simon ?
Complètement. Moi, d'ailleurs, c'est ce que j'aime depuis le début et qui ne cesse. Hein, c'est cette férocité dont vous parliez, cette cruauté. Alors, dans l'agonie de la grand-mère, ce qui est extraordinaire, c'est que, d'une part, Proust nous fait rentrer dans le corps mourant de la grand-mère. Donc, il est capable d'écrire la plus extrême organicité. Il nous fait remonter le temps d'avant l'apparition même de l'humain. D'accord ? Donc, on est dans une proto-temporalité incroyable, organique. Et de l'autre côté, on a toute la mise en scène, toute la théâtralisation sociale du deuil, alors que même que la grand-mère n'est pas encore morte. Proust nous fait voir un petit peu le duc de Guermantes qui vient saluer, Françoise qui a des valeurs. C'est à peine une critique en réalité de la part de Proust là. Je pense qu'il n'arrête pas de dire que Françoise est une femme de la campagne, une femme de Combray, qu'elle a des rites populaires. Elle est très déçue qu'il n'y ait pas des grandes larmes, des grandes manifestations de deuil et de chagrin au moment où la grand-mère est en train de mourir, parce qu'elle pense que la famille du narrateur est en train de rater en quelque sorte l'importance de la mort de la grand-mère. Donc effectivement, elle est égratignée à ce moment-là, mais c'est parce qu'elle a des valeurs contre lesquelles elle ne peut pas aller. Donc oui, elle se fait massacrer, mais tous les personnages de...
Proust, oui.
Oui, oui. Le temps retrouvé, c'est un jeu de massacre au sens propre du terme, à savoir qu'il démolit ses personnages. Alors, il y a aussi là une structure narrative intéressante. On tue les personnages, ils n'arrêtent pas de mourir, etc., pour pouvoir écrire le roman, finalement. Et dans cette férocité, le narrateur n'est pas exempt. Hein.
Oui. Il s'englobe lui-même, bien sûr.
Tout à fait.
Il s'englobe.
Et avec beaucoup d'humour aussi.
Oui, alors, bien sûr. Le comique est toujours présent, mais alors, je peux dire ce qu'il écrit sur Tante Léonie, toujours couchée dans un état incertain de chagrin, de débilité physique, de maladie, d'idées fixes et de dévotion. Et ce qu'il écrit sur le duc de Guermantes, on parlera peut-être de la scène des Chevaliers Rouges, et Mathilde de Brézet, dans son livre « Les mondes de Proust », dit que Bazin de Guermantes est un monstre d'égoïsme et se produit sur lui la grève prodigieuse et contre nature de l'extrême politesse et de l'extrême mufflerie.
Donc, moi, je ne sais pas si je l'appellerais un monstre d'égoïsme. Je veux dire, ce que décrit Proust, c'est l'être humain. C'est que ce soit d'ailleurs le duc de Guermantes, Saint-Loup, les Verdurins. Enfin, il parle tout le temps en nous de l'être humain. Et un des moments que je préfère, c'est vrai que le duc de Guermantes est quand même bien traité. J'adore ce moment où ses deux vieilles cousines viennent lui annoncer la mort d'un parent. Et il doit aller à un bal. Et évidemment, il ne peut pas aller à ce bal si le cousin est mort. Et elles entrent, elles disent « ça y est, il est mort ». Et le duc de Guermantes dit « mais non, mais pas du tout. Les médecins exagèrent toujours, il ira très bien demain ». Et il part au bal. Évidemment, également, la scène où Swann vient annoncer sa maladie très grave à ses amis, les Guermantes, et où les Guermantes réagissent en disant mais comment donc, mon ami, c'est sûrement pas grave du tout, et se préoccupe uniquement. Tout à coup, il regarde sa femme, il dit mais ses chaussures ne vont pas du tout avec votre robe. Donc il y a cette superficialité, mais cette superficialité que Proust attribue à tous ses personnages, il se l'attribue à lui-même, d'ailleurs parfois aussi, il est vraiment impliqué dans cette... C'est une férocité, je suis d'accord avec vous, une férocité absolument jouissive. On lit Proust, on rit tout le temps. Mais en même temps, moi, j'ai un autre mot que j'utilise dans mon livre qui est la tendresse. Je sens une grande tendresse de Proust pour ce qui est finalement un animal humain. Il décrit l'être humain, d'ailleurs Anne Simon, qui est un peu la spécialiste de l'animalité chez Proust, il décrit l'être humain comme cet animal tout à fait absurde. Et il le fait avec ironie, avec férocité et avec tendresse.
Alors, je vais dire un mot de cette scène qui clôt le côté de Guermantes, quand même. Mmh. Donc, Swann, avec le narrateur, sont chez les Guermantes, et Swann dit qu'il est très malade, et la duchesse de Guermantes dit, dans 10 mois, vous viendrez nous voir en Italie. Il dit, non, dans 10 mois, je serai mort depuis longtemps. Et alors, la duchesse de Guermantes est très embêtée, placée pour la première fois de sa vie entre deux devoirs aussi différents que monter dans sa voiture pour aller dîner en ville et témoigner de la pitié à un homme qui va mourir, elle ne voyait rien dans le code des convenances qui indiquât la jurisprudence à suivre. Donc, elle choisit de nier. À ce moment-là, le duc de Guermantes se manifeste, il dit « on est pressé ». Puis tout d'un coup, il voit qu'elle a des souliers noirs avec sa robe rouge, il dit « ben non, on n'est pas pressé, il faut que vous remontiez, mettre vos chaussures rouges ». Et après, il se répand sur elle, sur la délicatesse de sa santé en plus, devant un mourant, et ils s'en vont, et les derniers mots de la scène, qui sont aussi les derniers mots du côté de Guermantes, « Et puis vous, ne vous laissez pas frapper par ces bêtises des médecins, que diable. Ce sont des ânes. Vous vous portez comme le Pont-Neuf, vous nous enterrerez tous. » Mais c'est une phrase absolument terrible. C'est un monstre.
Mais c'est un monstre.
Il y a beaucoup de monstres dans... Parce que la vie a quelque chose de monstrueux pour Proust.
Oui, moi je pense
Anne
que...
Simon.
Proust est un des plus grands auteurs comiques du XXe siècle. C'est un homme qui mélange la farce et le comique de situation à des moments où justement on ne devrait pas se retrouver dans ce genre de comique. Et c'est ça qui fait l'inénarrable de son comique. Cette férocité, on va le retrouver dans le bal de tête avec le duc d'Argencourt, qui était l'ennemi personnel du narrateur, et que le narrateur décrit comme étant un vieux marchand d'habits ramolli, un sublime gaga, un bonhomme de neige simulant un général d'Ourakine en enfance, une larve plus vibratile que remuante, enfin... Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une réalité, une vérité de ce qu'il raconte. C'est ça qui nous fait si mal, en réalité. Mais il y a aussi le désir de faire rire.
Je suis entièrement d'accord avec Anne Simon. Et je pense que c'est de nous qu'il parle. Cette férocité, ce comique, c'est de nous. Mais et de nous, pas de nous au 19e siècle, au début du 20e siècle, de nous aujourd'hui. On lit Proust. Alors parfois, on le trouve dur à lire. Moi, je recommande de l'écouter en audio si on le trouve trop dur à lire. Parce que là, on verra à quel point Proust est vivant et vrai. Et un autre exemple, par exemple, cette scène que j'adore aussi, qui est Madame Verdurin lisant le journal, le Figaro, je ne sais pas quel autre journal, pendant la guerre, au moment du naufrage du Lusitania, où il y a des centaines ou des milliers de morts. Et elle est absolument horrifiée en lisant les nouvelles. Elle s'exclame « Oh, quelle horreur !» Et en même temps, elle est en train de boire un café au lait et de manger un croissant. Et Proust a cette phrase que... Vous l'avez la phrase, vous pouvez la lire,
Alain. Je l'ai trouvée dans votre livre.
Oui.
Et c'est extraordinaire.
Oui, je voulais.
Tout en trempant le croissant dans le café au lait, elle disait quelle horreur. Mais la mort de tous ses noyés ne devait lui apparaître que réduite au milliardième, car tout en faisant la bouche pleine des réflexions désolées, l'air qui surnageait sur sa figure, amené probablement là par la saveur du croissant, si précieux contre la migraine, était plutôt celui d'une douce satisfaction.
Ah. Extraordinaire phrase où on se reconnaît aujourd'hui. On est là devant la télévision, devant les nouvelles, on voit des horreurs, on dit « Oh, quelle horreur !» En même temps, tu as ouvert le Bordeaux, on se prend un verre de vin. C'est de nous qu'il parle. C'est de nous. Et en plus, il parle là de Madame Verdurin, donc il transfère sur Madame Verdurin ou sur Bloch en général les aspects les moins jolis de l'âme humaine. Mais qui est-ce qui aime le café au lait et les croissants ? C'est lui-même, c'est Proust, il adorait c'est comme ça qu'il se nourrissait à la fin de sa vie, de café au lait et de croissant. Donc je pense qu'il est en train ici de parler de lui-même.
Oui, bien sûr. Mais là, je voudrais vous soumettre une réflexion d'Alan Bloom. Et vous demander ce que vous en pensez. Elle ne porte pas sur Proust, mais sur la modernité en général. Il dit ceci, « Le goût moderne donne l'avantage à celui qui nie contre celui qui affirme. » Et il attend la vérité de celui qui est porteur de la plus mauvaise nouvelle. Et Proust est quand même un porteur de mauvaises nouvelles, qui nous concerne, c'est vrai. C'est vrai, c'est un miroir qui nous est tendu. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à voir, justement, chez Proust, avec ce goût moderne ? Anne Simon.
Il ne faut pas oublier que, dans le temps retrouvé, Proust explique... que toute la vie, toutes ces amours qu'on croyait négatives, qu'on croyait ratées, échecs, etc., toutes ces revirements politiques, ces retournements de veste qu'on trouve dans toute la recherche, il dit ça c'est la vie telle qu'on l'a vécue et c'est la vie telle qu'on doit l'écrire. On a l'impression, quand il raconte la vie dans son roman, que effectivement on est dans du négatif, mais en réalité, tout son roman nous parle pendant des milliers de pages de cette vie où le négatif se situe. Et je pense que là où vous avez raison en citant cette phrase, c'est qu'il y a dans la modernité, je dirais, un esprit négatif. C'est un esprit méphistophélique, je pense à Faust de Goethe, avec Méphisto qui dit « Ich bin der Geist, der stets verneint »,« Je suis l'esprit qui toujours nie ». Mais Proust n'est pas comme ça, à mon avis. Il y a au contraire des moments immenses de joie, d'intensité dans son œuvre qui font que justement cette vie-là, elle n'est pas à barrer, elle n'est pas à biffer, elle est à écrire, au contraire, à réécrire.
Alors, je suis totalement d'accord. Je ne vais pas citer d'allemand avec l'élégance d'Anne Simon, mais je ne suis pas d'accord, Alain, avec ces mots « porteur de mauvaises nouvelles ». Parce que justement, Proust, et je crois que je l'écris tout le temps dans mon livre « Ma vie avec Marcel Proust », il me remonte le moral, il me redonne foi en l'art, Et donc, il rend l'art évidemment plus intéressant que la vie. Il me redonne foi en l'art, en la vie, en moi-même. Il me dit, soumets-toi au réel pour écrire ton livre, ne compte que sur toi, n'aie pas peur de la souffrance, n'aie pas peur de la solitude. Il me donne foi en la création. Il me donne l'idée que quelque chose existe qui est plus intéressant que cette vie courante. Il me fait croire, en fait.
Mais oui, mais d'accord, mais il nous fait croire, mais certainement pas en l'intersubjectivité, pour parler comme les phénoménologues. Je vous cite deux phrases. « Lien entre un être et nous n'existe que dans notre pensée. La mémoire, en s'affaiblissant, les relâche. Et malgré l'illusion dont nous voudrions être dupes, et dont par amour, par amitié, par politesse, par respect humain, par devoir, nous dupons les autres, nous existons seuls. L'homme est l'être qui ne peut sortir de soi, qui ne connaît les autres qu'en soi, et en disant le contraire, ment. » Et cette phrase, « J'ai dit ce que je pense de l'amitié, à savoir qu'elle est si peu de choses que j'ai peine à comprendre que des hommes de quelque génie, et par exemple un Nietzsche, aient eu la naïveté de lui attribuer une certaine valeur intellectuelle, et en conséquence de se refuser à des amitiés auxquelles l'estime intellectuelle n'eût pas été liée. » Donc, je veux dire, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, Proust, Anne-Simon.
C'est une phrase, évidemment, de Proust, mais n'empêche qu'il écrit un livre où il y a des centaines de personnages. Donc cet homme qui dit qu'on est seul, qu'on est enfermé dans notre jeu, il passe son temps à avoir accès aux autres par de multiples façons. La première, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est parce que, en fait, de nous émane en permanence qui on est. Voilà, sans qu'on le veuille. La deuxième chose, son personnage est un voyeur, et cette perversion, entre guillemets, sexuelle, lui permet d'avoir accès constamment à la vie des autres. Et donc, en réalité, Proust, en écrivant cela, il écrit quelque chose et il fait le contraire. Hein. C'est-à-dire qu'il nous dépeint des personnages qui sont complètement différents les uns des autres. Par exemple, Albertine, les Gomoréennes dans À la recherche du temps perdu, les sœurs de Bloch, qui sont à la fois souillons, hardies, etc. Ce sont des personnages d'une liberté incroyable. Et il est capable de nous retranscrire cette extrême liberté, puisque les personnages qui lui échappent le plus, ce sont justement ces femmes, ce sont les Gomoréennes. Quant à l'amitié, il y a de belles amitiés là aussi dans À la recherche du temps perdu. Proust lui-même était traumatisé quand certains de ses amis sont morts à la guerre. Et Saint-Loup, par exemple, reste, c'est un grand ami dans La recherche du temps perdu, même s'il y a une brouille.
Vous êtes d'accord avec ça?
Alors, d'abord, dans À la recherche du temps perdu, il dit différentes choses, il écrit différentes choses sur l'amitié. Il y a certaines très belles pages sur son amitié avec Saint-Loup. Mais dans mon livre, d'ailleurs, j'ai dit que j'étais pas tout à fait d'accord avec cette phrase que vous avez citée, enfin que moi-même, je ne voyais pas l'amitié. Enfin, je me pose la question, parce que c'est vrai que dans l'amitié, on se dilue soi-même, et l'amitié me semble parfois peut-être contradictoire avec l'écriture. Mais laissez-moi terminer. Je suis totalement d'accord avec cette idée assez pessimiste de la solitude vraiment essentielle et profonde de l'être humain, et que la seule façon, la seule vraie communication avec l'autre, c'est une question de conviction, hein, donc ça passe par l'art. Et cette phrase de Proust, hein, s'il n'y avait pas l'art, la façon différente dont nous apparaît le monde resterait le secret éternel de chacun. Hein, donc, à quoi sert l'art? À nous révéler cette façon singulière dont vous apparaît le monde, Alain, dont vous apparaît le monde, Anne. C'est vraiment, je ne crois pas que c'est en parlant avec vous que je vais découvrir cette façon singulière dont vous apparaît le monde. C'est en vous lisant, c'est vraiment en vous lisant. Donc moi, je suis d'accord, même si j'attribue un rôle très important à l'amitié, je vous jure, j'ai énormément d'amis. C'est très important pour moi l'amitié, et parfois même une conversation avec un ami a pu donner naissance à certains de mes livres, comme Un brillant avenir, qui est né d'une conversation entre amis. En même temps, je suis d'accord avec Proust et cette idée fondamentale de la solitude.
Alors moi, je ne suis pas d'accord.
J'ai compris.
Je n'ai pas énormément d'amis. Je pense même que c'est une contradiction dans les termes. Mais l'amitié comme l'amour me semblent être des dons du ciel, enfin du ciel. Pour moi, le ciel est vide.
Mais ce n'est pas contradictoire.
Mais j'ai envie de rendre grâce. Mais ce n'est pas forcément contradictoire. Alors, tout autre chose. Vous citez dans votre livre « Ma vie avec Marcel Proust » de Catherine Cusset, une phrase inouïe de Céline. absolument dingue. Je veux la faire connaître quand même. À Proust, s'il n'avait pas été juif, personne n'en parlerait plus. Et enculé, et hanté d'enculerie. Il n'écrit pas en français, mais en franco-yiddish tarabiscoté, absolument hors de toute tradition française. Il faut revenir au mérovingien pour retrouver un galimatia aussi rebutant. Proust, l'Homère des invertis. 300 pages pour nous faire comprendre que tuture en cultatave, c'est trop. On en est là avec Céline. Qu'est-ce qu'on fait d'une phrase comme ça?
Céline écrit aussi bien que Proust, quoi.
C'est oui, attitude. Mais ce franco-yiddish tarabiscoté, qu'est-ce qu'il faut en penser?
Aïe, aïe, aïe.
Oui, alors, mais c'est... parce que cela étant, d'autres, comme le montre Antoine Campagnon dans son livre Proust du côté juif...
Il a été revendiqué.
On dit que, en effet, il y avait chez lui une écriture rabbinique.
Oui.
Ils l'ont dit à cause justement de ces digressions, de ces longues phrases, de ces incidents, etc., qui faisaient penser au Talmud. Mais voilà, c'est le franco-yiddish de Proust. Vous en pensez quoi, Anne-Simon?
Eh ben, donc Proust lui-même dit que quand on veut écrire dans une langue, et dans cette langue française qui est la sienne, n'en déplaise à Céline, il faut l'attaquer. C'est Proust qui dit que le grand écrivain, c'est celui qui attaque la langue. Il le dit à Madame Strauss, qui était aussi Madame Bizet. Il dit que les contresens sont magnifiques parce qu'ils nous découvrent d'autres aspects de la vie et qu'on doit donc écrire dans une sorte de langue étrangère pour pouvoir faire accéder les lecteurs à des vérités auxquelles ils n'auraient pas accès s'ils se contentaient de la langue usuelle. Donc Céline, voilà, il recyclait aussi, c'est Philippe Roussin qui l'a bien montré, il recyclait dans ses pamphlets des lieux communs, des clichés sur le fait que les Juifs sont les étrangers de l'intérieur, qu'ils maltraitent la langue. Et on va retrouver dans À la recherche du temps perdu des passages incroyablement antisémites de la part de Charlus et qui sont là aussi d'un comique, mais c'est hilarant, quoi. Contrairement à Céline, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Céline écrit ses pamphlets, c'est au moment de l'extermination des Juifs d'Europe de l'Est.
Oui. Catherine Gousset, pourquoi avez-vous cité cette phrase?
Alors déjà, pour qu'on puisse voir à quel point il peut y avoir une réaction négative et haineuse et hostile à la langue de Proust, et il est important de se rappeler qu'à son époque même, bon, Céline est arrivée après, mais qu'à son époque même, la phrase de Proust a été une difficulté. Une phrase dans laquelle on s'empêtrait les pieds, trop de subordonnés, trop d'incidents. Donc, ce n'est pas seulement de notre temps. Je crois que vraiment que Proust, et d'ailleurs ça a été dit, il écrivait comme il parlait. Il ne donne aucune leçon de style à personne. Il dit qu'il faut vraiment uniquement trouver les mots qui permettent d'exprimer la sensation et la pensée qu'on porte en soi. Donc, c'est uniquement une langue qui vient, et c'est le rythme de sa propre pensée et de sa propre expérience. Par ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il aurait détesté ces mots de Céline, l'Homère des invertis. Peut-être qu'il aurait été très content d'être appelé l'Homère des invertis. Finalement, dès le départ, quand il envoie son manuscrit à Fasquelle et à Gaston Gallimard, il prévient tout de suite de l'audace de son livre. Il a un personnage de pédéraste viril, qui est un personnage très nouveau et très audacieux. Et il faut bien reconnaître que le personnage du baron de Charlus est une invention extraordinaire, un personnage vraiment, vraiment audacieux. Ces pages dans lesquelles, dans le temps retrouvé, le narrateur entre dans un hôtel pendant la guerre pour boire, et puis il entend parler d'un assassinat qui va avoir lieu, on est en train de chercher des chaînes pour attacher quelqu'un, on se croirait dans le Club des Cinq. Hein. Et il se dit, oh mon Dieu, je vais essayer de sauver cette personne, c'est vraiment un assassinat, donc il va se produire, donc il monte dans l'hôtel en cachette, et miracle de miracle, il y a un œil de bœuf qui lui permet d'aller coller son œil pour voir ce qui se passe dans la pièce où en effet il y a un homme enchaîné sur un lit. Et qui est cet homme? C'est le baron de Charlus qui demande aux gens qui le fouettent « Allez, plus fort, plus fort !» Et Proust a cette phrase merveilleuse à propos du baron de Charlus. « Son désir d'être enchaîné, frappé, trahissait dans sa laideur un rêve aussi poétique que chez d'autres, le désir d'aller à Venise. » Et je trouve cette phrase magnifique, car elle est pour moi l'expression ultime de la tolérance. Ce que Proust nous dit ici, on ne peut pas critiquer la forme que prend le désir. Bien sûr, si le désir porte atteinte à l'autre, ça c'est une autre question. Il y a une limite du désir. Si le désir porte atteinte à l'intégrité du corps de l'autre, c'est une évidence que là il y a une limite. Mais il n'y a pas à juger le fantasme. Et franchement, je trouve que là, il y a un Proust d'une modernité extraordinaire et qui mérite d'être lu aujourd'hui dans une époque où le politiquement correct l'emporte un peu partout et à tous les niveaux.
Alors je préfère le mot d'ouverture d'esprit à celui de tolérance, parce que le tolérance, ça mène un peu
à la maison
nihilisme, tout se vaut, tout est pareil, etc. Mais c'est vrai, cette phrase, vous avez raison, est tout à fait extraordinaire. D'un autre côté, Catherine Cusset, vous avez dit tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à lire Proust, écoutez-le. Alors c'est vrai, sa langue est apparue un peu berlificotée dès la parution de Du côté de chez Swann. Il a été critiqué pour cela, mais on l'a beaucoup lu. Et où en est-on aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que la langue française, dans le processus où elle est engagée, a encore un rapport avec la langue de Proust? Est-ce que la langue de Proust n'est pas en train de devenir, pour la plupart des gens, même éduqués, je n'irai pas cultivés, une langue étrangère?
Alors, juste Catherine une petite chose. À la grande librairie, quand je suis passée pour ce livre, Augustin Trapenard a demandé à Guillaume Gallienne, de la Comédie Française, de lire 15 minutes, hein, de 15 minutes de lecture, la scène du baiser dans une première version. Une version, en plus, qui a été corrigée et changée par Proust. La mauvaise version. Je m'étais dit, mais il est fou. Tout le monde va éteindre sa télé. Et d'ailleurs, il était assez fier de ça. 15 minutes de lecture en prime time à la télévision. Et bien, vous savez quoi? On était suspendu. Alors je ne sais pas ce qu'il en est des spectateurs devant la télévision, mais je pense que c'était comme dans le studio. C'est extraordinaire. Tout à coup apparaissait dans cette lecture la vérité contemporaine de ce texte où on peut se reconnaître. Alors je ne dis pas, c'est vraiment Proust est difficile. C'est un auteur difficile.
Mais en plus, il était lu par quelqu'un. Là, c'était pas la lecture individuelle.
Oui, c'était lu comédien, à haute voix par Guillaume Gallienne. Mais c'est un accès comme un autre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont accès aux livres par les audiobooks. Et franchement, c'est très bien de lire aujourd'hui Proust par un audiobook si on est rebuté par la longueur de cette phrase qu'on n'a plus l'habitude de lire.
Oui, on a...
Anne Simon.
Je crois que c'est Véronique Aubouy qui... Voilà, on a...
Véronique Aubouy a fait cette lecture aussi.
Voilà, Proust lu. On a tous lu un passage d'À la recherche du temps perdu. Donc, elle fait lire des textes par... tout type de personnes dans des endroits différents, et on peut écouter Proust lu par des voix différentes, de même, comme vous le disiez tout à l'heure, que les artistes, grâce à eux, on a accès à l'univers intime d'autrui grâce aux artistes. Ça nous permet d'avoir 100 yeux au lieu d'en avoir que quelques-uns. Ce n'est pas seulement Proust, c'est qu'est-ce qu'on lit aujourd'hui? Les gens lisent beaucoup, en réalité, encore. Proust reste une référence quand Philippe Lançon est atteint au moment de Charlie Hebdo. Dans Le Lambeau, il raconte qu'il doit subir des dizaines d'opérations, et chaque fois qu'il descend au bloc opératoire, c'est avec À la recherche du temps perdu et le passage sur l'agonie de la grand-mère, notamment, sur lui.
Magnifique livre proustien.
Oui, et d'ailleurs, j'ai consacré une émission à la grand-mère chez Proust avec Philippe Lançon et Antoine Compagnon. Nous en avons longuement parlé.
Et puis, excusez-moi, je rajoute juste...
Oui, Anne Simon.
Il y a les fans de Marcel Proust aussi sur Facebook. Vous avez un groupe...
Paul Proust, et les amis, la société des amis de Proust.
Bien sûr, il y a énormément de gens qui gravitent autour de Proust, qui sont des gens d'ailleurs souvent très savants. Ils deviennent très savants sur Proust et peuvent vous rattraper sur n'importe quelle petite phrase que vous dites de façon maladroite. Il est extrêmement lu à l'étranger. Là, j'étais en Chine où on lit Proust, on le traduit... En ce moment, il sera traduit intégralement. C'est quelqu'un qui est lu justement parce que c'est un universel singulier. Tout le monde s'y retrouve, quelles que soient les cultures.
Oui.
Et donc, non, je pense qu'il y a un grand avenir pour la lecture de Proust.
Et c'est vraiment ce qu'il dit, de faire attention. C'est inutile d'écrire des livres, de chercher des sujets dans l'air du temps.
Tout à fait.
Parce que chercher des sujets dans l'air du temps, c'est finalement se détourner de la quête de ce livre intérieur, ce livre essentiel. Et donc finalement, Proust, le travail qu'il a fait, nous touche encore aujourd'hui.
Oui, et d'un autre côté, le temps perdu, c'est aussi, comme l'a montré Deleuze, le temps qu'il a perdu dans les salons. Dans l'air du temps. Et effectivement, dans un livre, ça donne des résultats extraordinaires, mais Proust était un mondain.
Oui.
Et la mondanité tient une énorme place,
oui,
pour le plus grand plaisir du lecteur d'ailleurs, dans « À la recherche du temps perdu ».
Oui, et moi j'admire Proust pour cette raison-là, parce qu'il a eu le courage, dans « À la recherche du temps perdu », de se montrer lui-même comme mondain, comme snob, parce que c'est une étape, Philly, le trajet, en fait, on ne peut pas l'apprendre d'un autre, on ne peut l'apprendre que de soi-même.
Oui, et puis Deleuze se trompe. Hein. Je veux dire, Proust, il écrit depuis les années 1890, c'est quelqu'un qui a écrit des milliers de pages avant d'écrire à la recherche du temps perdu. Ça ne l'a pas empêché de sortir au début de sa vie, et les 15 dernières années de sa vie, effectivement,
il s'est retiré dans sa chambre.
Mais il a vécu et il a écrit.
Et il a vécu et il a écrit. Merci beaucoup Anne Simon et Catherine Cusset. Catherine Cusset, je rappelle le titre de ce livre, « Ma vie avec Marcel Proust » chez Gallimard. Et vous avez écrit plusieurs livres sur Proust, ils seront sur le site Anne Simon. Je voudrais citer celui-ci, « Trafic de Proust, Merleau-Ponty, Sartre, Deleuze, Barthes » aux éditions Hermann. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui Jérôme Casamayou. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Wokisme, anti-wokisme, et mes invités seront Emmanuel Hénin et Alain Policard. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.